Bonjour, c'est Romaric Briand. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'audio d'un de mes lives enregistré sur Twitch le premier mardi du mois. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir mes invités en achetant leurs livres, leurs jeux, leurs œuvres. Bonne écoute.
Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, ça y est, c'est parti. On va se lancer gentiment dans ce live. Salut Boudi, merci beaucoup d'être là, merci à tous les nouveaux follow, à Malou, à Florent, à Ludophilo, à Spam, à Jace, à Kayano, à tous ces gens qui ont décidé de rejoindre cette chaîne Twitch, merci beaucoup à eux, ça me fait super plaisir. Je vois qu'il y a des nouveaux là qui sont arrivés aussi sur le chat, bienvenue Boudi, donc merci d'être là, ça me fait vraiment très très plaisir. Merci à Gali Gunm, j'imagine, ou Gun. Gunum, ça me fait penser à Gum, Gali forcément. Tu dis, hello, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de news, la cellule ou projet perso, je me trompe. Alors, si en fait, cette chaîne Twitch existe depuis déjà quelques streams, il se trouve que systématiquement, donc mes streams auront lieu le premier mardi du mois, donc aujourd'hui c'est un premier mardi du mois. Et que, en général, au début de ces streams, je ferai peut-être un petit retour sur mes actus et ensuite des lectures d'ouvrages ou des interviews d'auteurs, d'autrices de jeux de rôle, mais pas que. Au cours des streams précédents, on a déjà eu donc Natacha Forel qui est venue nous présenter Le Rosaire Écarlate, on a eu également Pierre Lagrange qui est venu nous présenter ses derniers articles en sociaux et en entrepôt. Vous verrez, il y aura plein d'autres invités qui vont venir progressivement enrichir ces streams du mardi soir, donc le premier mardi du mois. Or, donc pour répondre à ta question, Gali, il se trouve qu'il y a eu un stream, le précédent stream, qui était d'ailleurs très très long, je m'en excuse, hein, c'était quasiment trois streams en un. Mais au cours de ce stream, hein, le stream de mardi dernier, eh bien, j'ai eu l'occasion de revenir sur mes actus et d'expliquer un peu ma situation financière, la situation par rapport à la cellule, par rapport au jeu de rôle. Et les projets donc, que je comptais mener dans les mois, les semaines, les jours à venir. Donc si tu veux des actus sur la situation de romaricbriand.fr, donc, qui est le nom de ma maison d'édition, eh bien, je t'invite à aller regarder le stream du mois dernier. Toutes les streams sont en rediffusion sur YouTube, donc tu peux les retrouver sur YouTube, mais tu peux aussi et surtout les retrouver en audio sur la cellule, si tu vas sur la cellule, sur le blog de la cellule et même sur le flux RSS de la cellule, même sur tout ce qui est Spotify, toutes ces choses-là, eh bien tu verras en fait que l'actu, le flux des podcasts de la cellule est aujourd'hui enrichi des audios en fait de ces lives, qui sont même parfois découpés, donc quand il y a deux lives en un, ou comme la dernière fois, trois lives en un, eh bien les audios sont découpés pour faciliter en fait l'écoute du live. Donc tu pourras retrouver toutes ces actus. Bonjour Momie Magique, très heureux de te retrouver dans ce stream. On a fait une excellente partie de jeu de rôle avec Momie Magique régulièrement. On a joué à son jeu sur la chaîne voilà que son nom m'échappe. Momie, il faut que tu nous mettes ça dans le chat pour que je rappelle. Olshad, c'est ça? C'est ça, c'est Olshad, je crois bien. J'ai du mal avec les pseudos parce que j'inverse les lettres systématiquement. Vous me connaissez maintenant, vous savez que j'ai un peu de difficulté avec tout ça. Et voilà, donc on a eu l'occasion de jouer à ce jeu de rôle en live. Aujourd'hui, on va parler... Oui, le jeu de rôle s'appelle Magie de minuit, hein, je précise quand même. C'est un jeu qui se joue avec des tarots, mais je vous invite à aller voir le live tout simplement. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne d'Olshad. Il est lui aussi découpé en plusieurs parties pour que vous puissiez le regarder, le visionner. Donc n'hésitez pas. Bonjour à l'Arakis Newt. Ah, Arakis Newt. Bonjour François. Ça va la pêche. Ça fait plaisir de te voir sur ce stream à l'heure et pas à la fin. Ça fait très plaisir. La chaîne de qui tu as dit Olshad. Olshad, ça s'écrit. Je sais pas comment ça s'écrit. Tu veux que j'aille rechercher rapidement sur internet? Je vais faire ça si tu veux. Pour la partager, c'est ça en fait qu'il faudrait faire, il faudrait partager la chaîne d'Olshad, et je vais aller le faire tout de suite, en live, je vais faire ça très rapidement, tac, comme ça je vais pouvoir le partager, sa chaîne YouTube, Olshad JDR, Sinon, si momie magique l'attaque, je partage vraiment n'importe quoi. Hein. À l'arrache. Donc c'est ça. Clac. J'espère que je vais pas faire de bêtises. Copier le lien. Voilà. Et je vous envoie ça dans le chat. Si ça marche, je sais pas si ça marche. Ça va marcher. Voilà. Ça c'est la chaîne de Chad et c'est aussi la vidéo sur Magie de minuit, donc le jeu de momie magique qu'on a eu l'occasion de tester en live. Voilà, je sais pas si les liens vers YouTube fonctionnent bien. Mais voilà. Donc effectivement, c'est vrai que j'aurais pu parler de ça. En ce moment, donc je fais ces lives sur Twitch, mais je fais également des lives avec donc des lives des actual plays. Là, en l'occurrence, j'ai fait ça avec Olshad. Vous pouvez également me retrouver sur le podcast et le live YouTube 3 Trolls, qui est une émission en fait de podcast de jeux de rôle qui est animée par GogoJDR, Gogo, pardon. Gogo Maps même, pas Gogo JDR, Gogo Maps, et donc voilà, pareil, les trois trolls, vous pouvez les retrouver sur sa chaîne YouTube ou en live directement sur YouTube. Pareil, il faudrait que je mette les liens, hein, si j'étais un peu professionnel, je ferais ça. Donc si, hein, il y a plein d'actu pour répondre enfin à la question de Gali, il y a plein d'actu en fait. C'est pas forcément des actus la cellule, mais il y a en tout cas, moi je continue à faire beaucoup de choses. Donc voilà. Tac, dédicace Google Maps. Ok, merci à Boudi d'avoir. Je sais pas, ils font des trucs sur Twitch là, les modérateurs. Merci Boudi en tout cas de faire ton modérateur. Merci à Boudi de faire la modération. Merdi à Boussi. C'est intéressant ça, merdi à Boussi. C'est pas d'où je sors ça, mais voilà. Encore la dyslexie, toujours la dyslexie. Donc là, j'ai balancé en fait un lien dans le chat vers la dernière émission 3 trolls qu'on a faite sur la romance. Donc vous pouvez retrouver également ces émissions. Si vous aimez la cellule, si la cellule vous manque, n'hésitez pas à écouter 3 trolls avec Gogo. Donc vous avez peut-être entendu si vous suivez la cellule, sur la cellule. Et puis surtout Globo, qui est donc le deuxième troll que vous connaissez, hein, si vous suivez la cellule. Depuis longtemps, vous savez qui est Globo. C'est un rôliste routard qui a participé notamment aux Voix d'Altarit, qui était un podcast qui était diffusé dans les mêmes eaux, à la même époque que la cellule, et qui a été également l'invité de la cellule à de nombreuses reprises. Et puis, moi, je suis le troisième troll. Donc voilà, trois trolls. Si la cellule vous manque, n'hésitez pas à y aller. C'est sur la chaîne de Gogo Maps. Les autres actus dont je voulais vous parler pour débuter ce stream, c'est donc la continuation du projet comment dire, de physicaliser, de re-rendre physique en fait les jeux de rôle que je produis, parce que comme vous le savez, donc jusqu'à maintenant nous étions dans un espèce de contrat où je vous proposais des PDF gratuits et en échange vous souscriviez à mon Patreon. J'ai eu l'occasion de dire lors d'un stream précédent que ce contrat ne fonctionnait pas. J'ai expliqué lors du stream précédent pourquoi ça ne fonctionnait pas, pourquoi ce contrat PDF contre Patreon était en fait un échec et pourquoi je revenais à une forme de diffusion plus traditionnel à travers en fait la diffusion ou la rediffusion en fait des jeux en physique. Et donc à ce titre, je suis actuellement en train de travailler sur la version physique de Ex Nihilo et donc du coup j'ai commandé 40 kilos, 40 putains de kilos de billes plates comme celle-ci en fait. Donc là vous voyez les larmes, donc ça c'est juste 1 kg en fait, donc il y avait une vingtaine de sachets comme ça. Voilà, ça c'est le sang, les encres, et ça pèse une tonne, putain j'ai l'impression que ça va faire tomber mon bureau tellement c'est lourd quoi. Et la sève donc j'ai commandé en fait des billes plates pour pouvoir tout simplement. Je vais les mettre par terre parce qu'elles pèsent une tonne. Et ça pèse vraiment une tonne, quoi. Ouais, c'est ça. Je vais pouvoir faire des bains de billes. Exactement. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. J'en ai des kilos. J'en ai 40 kilos. Donc voilà, 40 kilos de billes. Parce que j'ai calculé qu'il fallait des kilos, en fait. Enfin, qu'il fallait X kilos. Je sais plus comment j'avais fait le calcul, mais en gros, j'avais fait le calcul de combien de kilos il fallait pour pouvoir produire suffisamment d'ex nihilo. Et ça faisait quand même un certain nombre. Donc là, aujourd'hui, j'ai reçu mes 40 kilos de billes plates pour faire tout ça. Et alors, comme vous pouvez le constater, ces sachets sont livrés en kilos, en paquets de kilos, en fait. En kilos, en 1 kilo par 1 kilo. Et ça ne donne pas, ça ne fait pas la division, parce qu'il faut que dans chaque jeu, il y ait 15 larmes, donc 15 billes plates transparentes, 15 sang, donc 15 billes plates rouges, 15 encres, donc 15 billes plates noires, et 15 sève, donc 15 billes plates vertes. Donc il va falloir, en fait, ni plus ni moins, que je prenne tous ces sachets et que je les fasse, que je fasse des tas de 15, que je les mette ensuite dans d'autres sachets. Ça me rend dingue, ça me rend complètement dingue, mais voilà, il va falloir le faire. Et j'en viens donc à la discussion, la première discussion que je voulais avoir avec vous, c'est ce retour au physique et ce que ça implique. Il faut savoir que moi, en fait, depuis le départ, si j'ai fait des jeux modestes, si j'ai fait des jeux, on va dire, qui se présentent par des livres, c'était aussi dans l'idée de faire en sorte que vous réutilisiez le matériel que vous aviez déjà chez vous. Donc par exemple, si on prend Vademécum, bah, ça vous invitait à réutiliser les échecs que vous aviez chez vous, les dominos que vous aviez chez vous, les dés que vous aviez déjà chez vous. Si on prend par exemple Donjons et Dominos, évidemment l'objectif est d'utiliser les dominos que vous avez chez vous. Si on prend le Val des Étoiles, et eh bien là c'était de proposer un jeu de cartes à la Magic, mais avec un jeu de cartes traditionnel que vous puissiez avoir chez vous. Et la question que je suis en train de me poser en ce moment, c'est jusqu'où il faut refysicaliser les jeux que je vends? Est-ce que aujourd'hui, là aujourd'hui par exemple, comme vous avez pu le constater avec cette histoire de billes plates, je refysicalise ex nihilo, donc je le re-rends physique, c'est-à-dire qu'avant, encore une fois, il était en PDF contre Patreon. Là, je suis en train d'en proposer une version papier, une version finie. Jusqu'où est-ce qu'il faut acheter des objets pour vous les revendre? En fait, ce n'est pas une question évidente. Par exemple, si le Val sortait aujourd'hui, est-ce que refysicaliser le Val, ce serait refaire les livres et par exemple proposer un jeu de cartes dédié au Val? Est-ce que refysicaliser Vademécum, par exemple, ce serait vous reproposer un échiquier, des dominos et tout le matériel qui va avec? Je me pose la question. Pourquoi je me pose la question? Parce que regardez par exemple Setra. Pour Setra, si je veux refysicaliser Setra, donc il faudra ressortir des livres qui correspondront donc au PDF que je propose actuellement en échange du Patreon à mes Patreons. Il faudra les refysicaliser en faisant 4 livres, mais est-ce que par exemple il va falloir que je propose les figurines qui vont avec le jeu? Est-ce qu'il va falloir que je repropose le plateau qui va avec le jeu? Parce que ça me semble évident que si je propose de jouer à Setra, mais qu'il n'y a pas de figurines, s'il n'y a pas les figurines, s'il n'y a pas le plateau qui va avec, eh bien, pour moi, ça semble assez évident que ça va pas fonctionner, qu'en fait, le problème de Setra va être le même, c'est-à-dire que les gens auront la flemme de imprimer eux-mêmes et de faire par eux-mêmes. Pour Ex Nihilo, je me suis posé la même question, je me suis dit, est-ce qu'il faut physicaliser Ex Nihilo? Est-ce qu'il faut le rendre physique au point de proposer les billes anglaises avec ou pas, les billes plates avec ou pas? Est-ce qu'il faut proposer un jeu complet avec par exemple des cartes, des billes et un manuel de jeu? Donc vous imaginez, ça fait un manuel à imprimer, des billes à acheter, souvent pas en France, hein, vous en doutez, hein, les billes là je les ai achetées en Allemagne, mais à mon avis rien ne garantit qu'elles ne viennent pas de Chine en fait, hein, c'est possible que je sois passé par un intermédiaire, je les ai achetées à un Allemand en me disant peut-être qu'il les produit lui-même. Mais salut F12 FI fi de prof, fi de prof. Tu vois, j'avais dit F2 prof la dernière fois. Là, c'est fi de prof, fi de prof. Bonjour fi de prof. Ça me fait très plaisir de te retrouver sur ce stream. Donc, est-ce qu'il faut refysicaliser les jeux au point de proposer de matériel avec? J'ai l'intuition que une des raisons qui font que mes jeux ne sont pas joués à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas le matériel qui va avec. C'est qu'il faut rematérialiser au point même de remettre en fait du matériel, remettre du matériel dans le jeu. En tout cas, pour Ex Nihilo, c'est évident que si on ne propose pas un jeu fait avec, c'est-à-dire un jeu de cartes prêt à jouer, deux jeux de cartes prêt à jouer pour faire la première partie, ça ne fonctionnera pas. Et 15 billes plates de chaque couleur, mine de rien, c'est pas évident à avoir chez soi, donc ça me semblait évident qu'il fallait refysicaliser tout ça. Mais quelque part, c'est pas le contrat que j'avais au départ, même quand j'ai lancé ma boîte. Mon objectif, c'était de réutiliser du matériel que vous aviez chez vous. Donc en ce moment, je suis dans cette balance-là, dans cette espèce de réflexion. Est-ce qu'il faut forcément livrer le matériel avec les jeux? Et quel matériel il faut livrer? Là, j'ai encore un jeu que je suis en train de préparer en ce moment dans lequel il y a des cartes à jouer. Est-ce qu'il faut donner les cartes à jouer avec le jeu? Ou alors, est-ce qu'il faudra compter sur les gens pour acheter leurs cartes? Et enfin, je vous cache pas que c'est pas le même prix, quoi. Si j'achète les cartes et si je les vends le jeu avec les cartes, ou si je vends juste le livre en papier, bah, c'est pas le même prix. Pour vous, ça coûtera beaucoup plus cher, parce que pour moi, ça coûtera plus cher à produire. Donc pour vous, ça coûtera beaucoup plus cher au final. Et donc du coup, ça suscite plein de questions. Ça suscite aussi des questions de gaspillage, parce que une des raisons que j'avais de ne pas proposer en fait la matière, enfin les objets, le matériel de jeu, voilà, appelons ça comme ça, le matériel de jeu avec les règles, c'était aussi dans l'idée que vous réutilisiez du matériel déjà existant. Autrement dit, c'était dans l'idée de faire preuve de recyclage, d'essayer de recycler un maximum de vieux jeux qu'on a chez soi et qu'on laisse de côté pour en fait en faire autre chose. Là, si je commence à proposer avec chacun de mes jeux du matériel dédié, bah quelque part, est-ce que ça restera quelque chose d'écolo ou de... Est-ce que ça restera quelque chose de... Enfin, est-ce que le contrat initial ne sera pas rompu? Ne va-t-il pas être changé? Est-ce qu'on rentre pas du coup dans une logique d'édition beaucoup plus classique, avec aussi pas mal de travers qu'on condamnait par ailleurs, de à la fois fétichisme de l'objet, à la fois dépense de matériel inutile qui sera au final laissé dans un placard ou jeté ou parce qu'on en a déjà plein. Par exemple, si tu fournis les jeux, si tu fournis les dés pardon avec un jeu, rien ne te garantit que de toute façon la personne qui achète le jeu, bah, il n'a pas de déjà des dés pour jouer avec, donc enfin voilà, c'est tout un tas de questions comme ça que je suis en train de me poser en ce moment. Alors je prends les questions du chat. Prosopopée ne livre pas les Prosopopée ne livre pas les dés de couleur avec le bouquin. Penses-tu que ça a pu être un repoussoir? Non, je pense pas pour Prosopopée. Pour Prosopée, je pense pas, parce que à l'époque donc où sort Prosopopée, il s'inscrit clairement dans la tradition du jeu de rôle et on sait tous et toutes que les rôlistes disposent déjà des dés. Enfin, les dés, c'est ce qui pose le moins de questions, en fait, quelque part. Quelque part, je pense que les dés, c'est vraiment l'objet que la plupart des rôlistes ont déjà chez eux. C'est un objet aussi qui est facile à trouver. Mais là, par exemple, tu vois, le prochain jeu que je vais proposer, il y a une battle mat. Battle mat, donc c'est ces objets en fait en forme de quadrillage qui permettent en fait de déplacer des figurines. Et cette battle mat, elle doit être, tu dois pouvoir écrire dessus et l'effacer. Et ça, en fait, c'est pas évident à trouver sur le net. Alors il y en a sur le net, mais celle de la dimension que j'attends et tout ça, c'est pas évident. Bah là, est-ce qu'il faut pas la proposer? Est-ce qu'il faut pas l'imprimer par moi-même, la faire plastifier par moi-même? Est-ce qu'il va pas falloir proposer en fait cette battle mat et ne pas compter sur le fait que les autres l'achètent. Donc tu vois en fait cette question, elle dépend aussi beaucoup du contexte dans lequel le jeu est publié. Là évidemment si tu publies un jeu pour les rôlistes routards, comme ce fut le cas pour Prosopopée, tu sais très bien qu'en fait les gens ils vont avoir les dés, donc t'as pas forcément besoin de les fournir. Mais par contre si tu utilises des objets plus précis comme par exemple une battle mat, par exemple effaçable, beaucoup de jeux de cartes, même à jouer, t'es pas garanti en fait que les gens aient des jeux de cartes. Pour Donjons et Domino, par exemple, la question se pose encore. Il y a beaucoup de gens qui, donc notamment des gens de la, je vais dire la jeune génération. Je suis désolé, ça fait un peu vieux de dire ça, mais moi, par exemple, donc dans mon entourage, enfin autour de nous, on avait tous une grand-mère qui avait des dominos chez lui, même nos parents en fait avaient des dominos. Mais dans la génération des 20 ans, 30 ans aujourd'hui, eh ben c'est pas certain. Il y a beaucoup de jeunes entre 20 et 30 ans qui m'ont témoigné du fait qu'ils avaient acheté en fait un jeu de domino pour jouer à Donjons et Domino. Ils n'en avaient pas chez eux. Darky, par exemple, qui a été l'un des premiers testeurs de Donjons et Domino, n'avait pas de domino chez lui. Donc ça, c'est un fait que, bah, par exemple, il aurait peut-être fallu en fait, comment dire, fournir les dominos avec Donjons et Domino par exemple. Alors ce qui me semblait complètement aberrant pour moi parce que moi j'ai toujours eu des dominos dans mon entourage. Mais voilà, c'est un exemple en fait de cas dans lequel en fait le contexte en fait et la génération à laquelle on s'adresse, je sais pas comment dire, les gens auxquels on s'adresse, ça va changer la donne par rapport au matériel qu'il faut fournir ou pas. Momie Magique nous dit que c'est compliqué la physicalité des jeux comme questionnement, je suis d'accord. Et Momie Magique d'ailleurs qui a fait un jeu récemment sur les tarots, donc qui utilise les tarots pour son système de résolution et son système de jeu d'ailleurs, eh bien Momie Magique va fournir en fait avec le jeu qui est actuellement en financement participatif, peut-être que le financement participatif est fini à l'heure où on se parle, mais en tout cas Momie Magique a proposé à une illustratrice de lui faire des tarots. Donc ça signifie que lui, il a choisi de, comment dire, de produire en fait le matériel qui allait en fait avec le jeu. Ce qui est un choix complexe, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler lors du live avec Olshad. Mais en fait, est-ce que quand on fait un jeu autour du tarot, on fait pas également un jeu autour du tarot de Marseille et donc un jeu autour du visuel du tarot de Marseille? Et donc proposer un jeu, un tarot fait par une artiste pour le jeu lui-même, c'est déjà quelque part s'éloigner un petit peu ou se désinscrire de la tradition du tarot traditionnel. Et donc, c'est faire un choix esthétique et très, très, très fort. Mais évidemment, bien sûr, Momie Magique s'en explique très, très bien dans le live. Mais voilà, je comprends que Momie Magique, dans les commentaires du stream, reviennent aussi sur la question de la difficulté de la matérialité du physique, parce que c'est une question à laquelle, évidemment, il a été récemment confronté. Donc, ça dépend des jeux. Le Val repose. Donc, Gali nous dit, ça dépend des jeux. Le Val repose sur un jeu de cartes. Tout le monde en a chez soi. Alors que Ex Nihilo demande déjà des billes spécifiques. Cetra a pour force d'être du print and play. En physique, tu vas te ruiner et le jeu perd un peu une de ses spécificités. C'est vrai, Gali. Néanmoins, beaucoup de personnes m'ont dit avoir juste la flemme d'imprimer les figurines. Bon, ceci dit, c'est pas la principale critique par rapport au fait que les gens ne jouent pas à Cetra. C'est pas l'impression des figurines, c'est le fait que tout simplement, il est difficile de réunir quatre personnes motivées pour jouer à un jeu de cette ambition-là. D'ailleurs, ça dit quelque chose de notre époque aussi, parce que moi, à mon époque, quand on était étudiant, c'était très facile de réunir quatre personnes pour jouer. Je trouve que aujourd'hui, ça devient beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile pour des tas de raisons. Pour des raisons notamment financières. C'est qu'aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus d'argent de se réunir en physique, ne serait-ce que parce qu'il y a l'essence qui coûte plus cher, la vie coûte plus cher, les transports coûtent plus cher, tout coûte plus cher. Et donc, ça devient difficile de se réunir en physique aussi à cause de ça. Et puis aussi, Internet, évidemment, joue une facilité que nous, à mon époque, nous n'avions pas. Peut-être que si nous avions eu Internet à mon époque, nous serions moins rassemblés en physique et que nous aurions plutôt joué en virtuel. Donc là aussi, pareil, un changement, évidemment, d'époque qui fait que mes jeux sont un peu datés. Là aussi, j'ai eu l'occasion d'y revenir, ma déconnexion par rapport, évidemment, à la jeunesse actuelle et à ses envies, à ses modes de fonctionnement. J'ai eu l'occasion d'en parler lors du live précédent sur mes actus. Puisque comme je le disais, je me sentais un petit peu déconnecté. Les jeux que je fais, ils ont l'air d'être bien pour des jeunes des années 90, 80, peut-être 2000, mais ils ne sont pas adaptés en fait aux conditions de vie en 2024, qui sont bien évidemment beaucoup plus difficiles. Tac tac tac, proposer une version avec. Alors, fille de prof, fille de prof, me dit, et proposer une version avec et sans accessoires, avec donc deux tarifs, c'est envisageable niveau stockage? C'est la question. Franchement, pour le moment, je ne me vois pas faire ce genre de proposition parce que j'ai peur d'acheter tout un stock de matériel et de me retrouver. Parce que, en fait, le matériel, il faut l'acheter en gros. Il faut l'acheter en lot énorme pour que ce soit intéressant. Donc du coup, si je commence à proposer un double, comment dire, une vente d'un jeu sans le matériel et avec, j'ai peur que le jeu sans le matériel, parce qu'il est moins cher aussi, attire plus de gens et du coup j'ai peur de me retrouver au niveau stockage avec énormément de matériel sur les bras et donc des coûts financiers énormes. Donc je préfère, si je propose quelque chose, je préfère proposer quelque chose d'uniforme. Momie Magique me dit, j'ai acheté un jeu d'échecs et de domino pour jouer à Vademecum, je l'avoue. Ok, très bien, donc voilà, donc c'est QFD. Moi je pensais que c'était du matériel que tout le monde avait chez soi, mais effectivement, c'est pas forcément le cas. Arrakis, Newton nous dit, et puis Donjon et Domino, il y a aussi des billes carrées, transparents pour les mobs. Oui, c'est vrai, dans Donjons et Domino, il y a aussi des petits marqueurs. Ceci dit, ces marqueurs-là, je pense que tu peux facilement les remplacer par des Lego, par des capsules. En fait, n'importe quoi peut jouer le rôle de marqueur, y compris des petits D6. Attends, des D6, est-ce que ça marche? Oui, ça peut marcher, les D6, tout simplement. Sauf erreur de ma part. Des petits D6 Warhammer, là, les tout petits, ça peut fonctionner. Voilà. J'étais parti de l'idée que les gens avaient du matériel de jeux de société chez eux et donc ils auraient ça, ou des Lego, ou des choses comme ça. Mais effectivement, c'est une bonne question. Alors, Barbu 422 nous dit: je viens d'arriver, je sais pas si ça a été évoqué déjà, mais pour Horrifique, il faut rajouter un peu de matos. Horrifique. Donc, ça doit être un jeu. Ça doit être un jeu, je sais pas. Je sais pas. Horrifique, c'est quoi? C'est un jeu de rôle sans doute? Barbu 422, si tu es toujours là, est-ce que tu peux préciser de quoi tu parles? Mais ah oui, Horrifique, ça doit être un. Ok, ça doit être un jeu. Tac tac tac, ça doit être un JDR récent que j'ai pas. Parce que attention, moi l'actu du JDR, j'en suis tellement éloigné. Acheter Horrifique, un jeu d'Akritarch. Ah oui, je connais bien ça. Les jeux d'Akritarch, je vois bien qui c'est. Ok. Et donc là, pareil, c'est un jeu dans lequel il y a du matos à acheter en rab. Ok. Alors, très bien, ouais. Donc, comme quoi ça se fait effectivement d'avoir des jeux de rôle avec du matos à côté. En fait, c'est ça qui se fait aussi. Par exemple, je vois Black Book Edition, par exemple, ils font ça parfois. Ils vendent en fait un jeu et puis. Ils vendent un jeu et puis en fait, ils proposent en fait du matos qui va avec le jeu, quoi. C'est un JDR pour faire du Cthulhu, dit Barbuck 422. Eh oui, j'ai vu, j'ai été voir du coup. De Groove, je suis biaisé parce que je joue plutôt avec des gens online, aux quatre coins des US. Mais mon trip perso, ce serait plus de dématérialisation avec des PDF et des modules pour VTT que des jeux physiques avec des éléments compliqués. Alors il faut savoir qu'il y avait une version en fait VTT qui était prévue pour Vademecum, qui était orchestrée et organisée. Alors je sais que il y a eu déjà une version VTT de Vademecum qui avait été proposée par Sherin Ford et elle avait été par la suite améliorée, patchée par des gens comme Vincent Maviel par exemple. Et du coup, ils voulaient en proposer en fait une version achetable sur Roll20 pour Vademecum, ça avait été une option qui avait été envisagée. Mais Vincent Maviel ayant eu d'autres priorités personnelles, puisque en ce moment il s'inscrit pas mal dans le milieu associatif et très. Le VTT c'est pour Virtual Tabletop, oui. Oui, FI de prof, tu as raison de préciser. Il s'inscrit beaucoup dans le milieu associatif en ce moment, Vincent Maviel, donc il a un petit peu moins de temps en fait pour développer tout ça. Mais il en avait été question effectivement de préparer en fait du matériel pour du VTT. À savoir aussi que Darky avait travaillé sur un logiciel en fait d'émulation de jeux de plateau pour proposer des figurines. Oui. Boudy dit que pour Vademecum, le VTT est un excellent format. Effectivement, c'est ce que pensent la plupart des MJ de Vademecum. A savoir aussi que Darky avait proposé donc un ensemble. Enfin, il avait commencé à réfléchir à un ensemble d'outils pour jouer en virtuel à comment dire Cetra. Parce qu'apparemment, il y a des services en fait en ligne d'émulation de jeux de plateau et de figurines de jeux de plateau. Et il avait commencé en fait. Et donc chaque personne peut potentiellement customiser en fait ses figurines pour son jeu de plateau. Et donc il avait commencé à uploader en fait les visuels de Cetra dans ce truc pour produire en fait un truc jouable en VTT pour Cetra. Mais pareil, ça a été laissé de côté parce que Darky, il a une vie bien remplie aussi, il a deux enfants en bas âge, donc il a autre chose à faire que de s'occuper de tout ça. Et moi, malheureusement, avec le développement des jeux actuels, c'est très très compliqué pour moi de faire ça. En plus, je suis pas très très bon, honnêtement, dans la technique, l'informatique et compagnie. Donc voilà. Qui plus est, les versions, tiens, je pense à ça parce qu'il y a Arrakis aussi qui est présent sur le chat. Il faut savoir que Arrakis donc, a développé un logiciel pour jouer au Val en ligne, comment dire, ce logiciel a été uploadé sur le forum du jeu, qu'on en a fait des partages à droite à gauche, qu'il a été question en fait, de ce logiciel à plusieurs reprises. On voulait faire aussi un Twitch sur ce logiciel, et que pour l'instant, il faut le reconnaître, personne, enfin pas grand monde en fait, utilise le logiciel qui a été proposé. Donc, il y a aussi un problème de visibilité autour de mes jeux. Il n'y a pas que un problème d'accessibilité via les trucs virtuels. Si on propose en fait des trucs virtuels ou des outils virtuels pour jouer à mes jeux, mais qu'au final il y a trois personnes qui s'en servent, le rapport entre le temps de travail et l'utilisation de l'objet sera négatif. Et moi, je peux pas. Si on voulait que ce soit bien fait, il faudrait que je paye des gens en fait à le faire. faudrait que je paye en fait un salarié pour faire du développement web à même d'émuler mes jeux sur des virtuels tabletop, donc du VTT. Or ça, eh ben malheureusement, j'ai pas les moyens en fait de le faire et j'ai pas en fait la masse critique, le nombre de joueurs suffisant pour pouvoir le faire. Donc Araki se dit, j'ai une table virtuelle dans les pattes, on refera le débat là plus tard. Vraiment pas convaincu à l'usage de Vademécum en distanciel, moi. Ok, donc Araki, ça a l'air de dire que lui, le Vademécum en distanciel, ça marchait pas très bien. Les enfants, c'est pas de la main-d'œuvre gratuite. Hello, les Wittgensteiniens, nous disons Rosargue. Les enfants, c'est pas de la main-d'œuvre gratuite. Alors là, pas du tout. Pour avoir essayé de coller mes enfants sur, par exemple, le tri des cartes Lollyrock à l'époque, ou le classement des billes Lollyrock pour jouer, en fait, pour mettre les saphirs autour de la couronne des Feydia, parce qu'il faut savoir qu'il y a un jeu en print and play autour de Lollyrock que j'ai développé pour ma nièce Suzanne, et donc que j'ai offert, en fait, à certains patrons. Et à certains tipeurs, à l'époque j'étais encore sur Tipeee, donc à certains Patreons en fait en physique, et donc du coup j'avais fait 100 jeux physiques, donc j'avais trié les cartes, les billes, machin, j'avais essayé de mettre mes enfants sur le coup, et en fait assez rapidement en fait les enfants ils font n'importe quoi, ils jouent avec les billes, ils mettent les cartes n'importe comment, et puis au bout de 5 minutes en fait, même pas 5 minutes d'ailleurs, 1 minute 30, hein, chrono, hein, ça les gonfle et puis ils passent à autre chose. Donc non, je n'ai jamais réussi à faire travailler mes enfants, donc si vous avez des méthodes pour pour faire travailler. C'est horrible. Mais non, 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 personnellement, je le fais moi-même. En plus, je suis freak contrôle. J'aime bien avoir un contrôle de la qualité des objets. Si tu mets des enfants à travailler, à distribuer des cartes dans les paquets, je serais angoissé. Je saurais jamais en fait si les cartes sont bien triées, si ça a été bien fait, si ça a été bien mis. Donc non, non, je ne fais pas travailler mes enfants. Et les enfants ne sont pas de la main-d'œuvre gratuite. Voilà. Tac. En fait, il faudrait un hybride avec des tablettes. Ouais. Alors là, vous voyez qu'on est en train de s'éloigner complètement de l'enjeu écologique de mon travail, hein. On est en train de parler de tablettes. Là, ça y est. Il y en a qui vont sortir du virtual tabletop dans tous les sens. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 PC, dans tous les sens, machin. Bon, bref, on est loin en fait de ce que je voulais. Hein. Je vous rappelle que je fais du jeu de rôle pour rassembler des gens autour d'une table physiquement. Que je voulais que ces gens échangent des fluides corporels ensemble. Que je voulais qu'ils soient ensemble, qu'ils manipulent du matériel ensemble. De préférence, des gens très différents, etc. Donc, moi, c'est pour ça qu'en fait que je fais du jeu de société. Donc là, en fait, on est en train de parler de comment rendre les jeux plus jouables, plus accessibles et plus adaptés à leur temps. Je suis d'accord, mais il faut. Je suis d'accord, en fait, c'est comment faire de ces jeux des produits, ça, il n'y a pas de problème. On voit qu'il y a plein d'idées sur le chat pour faire de tous ces jeux des produits. Mais le problème, en fait, c'est que vous avez un auteur là, devant vous, là, qui est là, et qui, lui, en fait, ça le fait chier. Fondamentalement, ça le fait chier parce que lui, il a fait des jeux pour mettre des gens, encore une fois, physiquement autour d'une table. Et c'est ça, en fait, qui est subversif aujourd'hui, c'est de mettre des gens physiquement autour d'une table. C'est ça qu'il veut pas, Vladimir Poutine. C'est ça qu'ils ne veulent pas, en fait, ces vilains dictateurs ou ces autocrates. C'est que des gens se rassemblent physiquement, hein. Que des gens restent derrière leur écran à gueuler ou à faire des activités ensemble, mais sans être vraiment ensemble, ça les arrange, en fait, tous ces gens, hein. Donc, bon, là, on rentre aussi dans la dimension politique de mon travail. Moi, l'objectif aussi que j'ai, c'est de mettre ensemble des gens autour d'une table. C'est pas forcément de produire des jeux pour qu'ils soient joués en virtual tabletop ou je sais pas quoi. Donc il y a aussi ça. Alors après, je ne suis pas contre le virtual tabletop. On m'a souvent caricaturé avec ça. On m'a souvent dit que j'étais hostile au jeu de rôle virtuel. La réponse est non. Faites du jeu de rôle, même en virtuel, c'est trop cool. Et jouer en virtuel, c'est très bien. Mais sachez que moi, en tant qu'auteur indépendant, c'est pas mon objectif au départ. Mon objectif, c'est que mes jeux, ils soient joués en physique, pas en virtuel. Voilà, je voudrais pas. Je voudrais pas qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit, mais voilà. Rosarg nous dit, est-ce qu'à terme, si j'arrive à lire ce qui est écrit, est-ce qu'à terme, on ne devrait pas avoir des JDR pensés et développés pour la table et d'autres pensés et développés pour le jeu à distance où on tire profit de la distance Enco? Et bien sûr que si. Et d'ailleurs, c'est ça. Il y a déjà eu un premier jet, en fait, un premier jeu qui parle de cela et qui fait ça très bien, c'est Alice is Missing, qui est donc un jeu qui se joue et qui est fait pour être joué à la fois en présentiel et à distance, en tout cas en utilisant les outils du VTT. Rosark tag le fait que j'ai. Si vous savez comment faire pour travailler les enfants, je suis preneur. Non, mais... Ah, c'est salaud. Ça, c'est salaud, Rosark. C'est salaud! Mais c'est de bonne guerre. Et voilà, donc qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, il y a déjà en fait un jeu qui fait ça très très bien, c'est Alice is Missing, qui est déjà pour moi un premier jeu de rôle qui tripe autour de ces outils distanciels et qui développe un propos autour de cela. Il y a également, je sais plus comment ça s'appelle, un jeu qu'on m'a présenté récemment qui s'appelle Il y a des fantômes dans ces salons et qui est un jeu qui se joue sur Discord. Voilà. Et donc c'est un jeu en anglais. Il y a des fantômes dans ce salon, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc c'est un jeu aussi qui se joue via Discord, et donc avec des gens qui jouent des spectres qui parlent à travers des fantômes, enfin, des spectres qui parlent à travers des salons Discord, et les gens sont amenés à se déplacer de salon en salon, un petit peu comme s'ils visitaient un manoir hanté ou un salon hanté. Il y a un côté un peu creepypasta là-dedans et tout. C'est très intéressant aussi. Et voilà. Donc voilà en fait des exemples de jeux qui jouent déjà sur le fait d'être virtuel et compagnie. Moi, ce n'est pas du tout le cas. Ce serait une adaptation en fait. C'est comme ce qui a été fait pour le Village par Darki. Le Village est un jeu de solitaire qui se joue avec un jeu de cartes et Darki l'a adapté en jeu vidéo. On a eu l'occasion d'en parler dans un excellent podcast de la Citadelle avec Boudy, Antoine Foin, Alex et donc le Antoine 2, donc Antoine Cardon. Et donc on a eu l'occasion de parler du village et du fait que justement le village, l'application de Darki, trouvable sur toutes les bonnes plateformes, est donc une adaptation d'un jeu qui est fait pour être fait en physique. Donc quoi qu'on fasse avec mes jeux, on ne fera que des adaptations parce que moi, mon objectif, en fait, c'est de proposer d'abord et avant tout des jeux physiques. Alors, donc je prends un petit peu vos commentaires rapidement. Alors, n'est-ce pas un peu subversif, dit François, de permettre aux gens de maintenir des relations malgré les séparations contraintes par la bougeotte rendue obligée par le monde du travail contemporain afin de maintenir des groupes sociaux stables où l'on se connaît de longue date et peut parler de tout plutôt qu'une société complètement atomisée où on ne se retrouve que par intérêt avec des gens avec qui on ne fait qu'une chose en commun. Alors moi c'est un débat complexe dans lequel j'ai pas vraiment envie de rentrer ce soir, François. Mais je pense que c'est bien en fait de garder des contacts avec des gens qui sont éloignés, il n'y a aucun problème. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger. En fait, tout est dans la. Faut doser, quoi, comme dirait Boudy. Faut doser, quoi. Faut doser, tout est dans le dosage. Il faut à la fois en fait garder des contacts physiques avec des gens présents sur place et en même temps garder osons doser, osons doser. donc il faut et en même temps en fait, enfin il faut les deux quoi, il faut les deux. Et je veux dire, il n'y a pas plus atomisé non plus qu'une société où tout le monde se retrouve sur Internet le soir comme on est en train de le faire maintenant. Regardez, il n'y a personne dans cette pièce, hein. Je suis tout seul. Il faut se méfier aussi de ça. Je pense qu'il y a il y a des travers à éviter, il y a des critiques à faire, que ce soit dans le distanciel ou dans le physique. Il y a des critiques à poser. Voilà. Après, là, ce que tu critiques, François, c'est plutôt le monde actuel, le monde capitaliste actuel, qui nous pousse en fait à nous rassembler pour de mauvaises raisons. Donc, c'est une critique plus globale de la société que tu dresses. Et dans le contexte d'une société plus globale capitaliste, je ne sais pas ce qui est le mieux entre avoir des amis virtuels et avoir des amis réels. Le mieux est sans doute d'avoir les deux. Le mieux est sans doute de rester connecté aux réseaux sociaux et de garder en fait des contacts avec des gens un peu éloignés mais peut-être plus en adéquation avec ses problématiques personnelles etc. Enfin je veux dire disons qui partagent des centres d'intérêt parce que par exemple si on prend le jeu de rôle sur Saint-Malo il y a plein de rôlistes hein, sur Saint-Malo évidemment mais bah, imaginons que j'habite dans la Cambrousse on va dire pas Saint-Malo Saint-Malo c'est un mauvais exemple imaginons que j'habite dans la Cambrousse vraiment paumée et qu'il n'y a pas de rôlistes dans mon village bah, évidemment c'est cool de pouvoir jouer au jeu de rôle avec des gens qui sont loin mais s'il y a des gens autour de moi qui font du jeu de rôle, ça peut peut-être être mieux d'aller en physique aller voir. Bref, en fait, tout ça est très dépendant du contexte et de la société dans laquelle on est. Et donc, au fond, c'est pas tant une critique des médias que je... ce que je critique, c'est pas l'usage du virtuel ou le jeu de rôle virtuel ou quoi, c'est le fait qu'il se généralise. Et le fait qu'il se généralise, pour moi, ça montre en fait quelque chose de notre société. Et donc, ce que je critique derrière, c'est moins l'usage du jeu de rôle virtuel que la société qui est derrière et qui nous pousse à avoir ces usages du virtuel. Pour faire simple, quoi. Mais enfin, tout ça est très complexe et je veux pas ici rentrer dans ce débat-là. Même si évidemment, ce débat, il est contenu dans le sujet que je vous proposais là, qui est jusqu'où rematérialiser en fait le jeu de rôle, jusqu'où rematérialiser mes productions. Si je les rematérialise en fait complètement, c'est aussi parce que je veux que vous retrouviez la matérialité et que vous détourniez en fait du virtuel pour revenir en fait autour de la table, etc., etc. En tout cas, c'est mon intention en tant qu'auteur. Et encore une fois, je ne juge pas les gens qui ne pratiquent pas le jeu de rôle comme ça et qui font du jeu de rôle autrement. Le tout est qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils doivent faire pour se sentir bien. C'est ça qui compte. Je ne suis pas un prescripteur. Je ne veux pas être prescripteur de ce qui est un bon comportement ou un mauvais comportement, j'en ai rien à foutre. C'est vous-même qui vous savez vous-même en fait ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Mais voilà, moi j'aimerais une société dans laquelle les gens se retrouvent physiquement plutôt qu'une société dans laquelle les gens se retrouvent virtuellement. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et donc, du coup, les jeux que je fais, dans la mesure où moi j'y joue en physique, et ben ils sont pensés et ils sont réfléchis pour jouer en physique. Et d'où la difficulté aussi de les adapter à du virtuel, c'est parce que juste ils n'ont pas été playtestés comme ça. Donc, ça c'est une difficulté. C'est chaud là les sujets là. Je vis ça avec des potes, nous dit FI de prof. Fille de prof, pardon. Je vis ça avec des potes. J'ai des potes que j'arrive à voir pour jouer à Magic et ça me peine un peu. Que j'arrive à voir que pour jouer à Magic et ça me peine un peu. C'est vrai que. Je note que c'est plus, il y a des jeux en fait qui sont plus faciles, qui réunissent plus facilement en fait des gens en physique que d'autres. Magic en fait partie. Je trouve que Magic, ça reste un jeu comme, en fait, il y a quelque chose dans Magic qui encourage les gens à se confronter les uns les autres et donc à se rencontrer quelque part. Dans la mesure où on a acheté, où on s'est engagé, on a acheté beaucoup de cartes en réel, ben on a envie en fait de confronter ces gens en réel. Quelque part, Magic, oui, est un jeu qui rassemble. D'ailleurs, c'est pas un hasard, hein, le jeu s'appelle Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. Je pense que derrière aussi, il y avait aussi l'idée de la part de Richard Garfield de faire une assemblée en fait de joueurs, de créer en fait une collectivité de joueurs. Et de ce point de vue-là, je pense que Magic est assez réussi, même si par ailleurs, évidemment, le jeu a des choses, a des dimensions aliénantes. On me dit qu'il y a quelqu'un derrière moi. Putain, j'ai eu peur, hein, j'ai eu peur. Vraiment, ce live est incroyable. J'ai eu peur, Bouti. Tu m'as fait peur, Bouti. Tu parles du type bizarre avec une tête de bébé. Non, Croc n'est pas derrière moi. Tac, un mec de la cellule. Magic the Gathering. Ça aurait un sens caché. Oui, c'est possible que ça ait un sens caché, Magic the Gathering. Voilà, donc ça c'était pour reparler de la physicalité des jeux et tout ce que ça implique à la fois du point de vue écologique, du point de vue financier aussi, parce que c'est du matériel à acheter, donc ça va augmenter le prix de jeu. Je me pose des questions en fait en ce moment sur jusqu'où en fait rematérialiser les jeux, faut-il revendre du matériel avec les jeux? Est-ce que ce ne serait pas retomber à nouveau dans une forme de fétichisme de l'objet? Est-ce que ce serait bon pour la nature, pour nous tous et toutes? C'est une question que je me pose en ce moment et qui, je dois le dire, me pose de grosses difficultés, de gros problèmes. Donc c'était une des actus dont je voulais vous parler. Si vous avez rien d'autre à ajouter sur ce sujet, enfin j'ai vu qu'il y avait plein de réflexions sur le monde dans lequel on vit, le fait de jouer en virtuel et tout ça. Si vous voulez, on fera un débat là-dessus. Ça pourrait être intéressant d'avoir un débat sur ces sujets-là, sur le jeu de rôle virtuel et tout ça, et sur la société que dans la société dans laquelle on vit et comment en fait le virtuel peut éventuellement changer en fait l'expérience du jeu de rôle et tout. Ça pourrait être des sujets, enfin en fait ça pourrait même faire l'objet d'un podcast entier avec une émission hebdomadaire sur le sujet quasiment. Tellement c'est profond, intéressant et compagnie. Mais voilà. Ok, apparemment pas d'autres réflexions ni remarques sur ce sujet, donc j'enchaîne l'autre actu. Je suis en train de lire ce livre. Qui est un livre de Camille Lefebvre qui s'appelle Des pays au crépuscule, le moment de l'occupation coloniale au Sahara et au Sahel. C'est un livre qui est passionnant. Je ne l'ai pas encore tout à fait terminé. Je suis quasiment à la fin, mais je ne l'ai pas encore tout à fait terminé. C'est un livre que j'ai été encouragé à lire par ma lecture de 5 têtes coupées, donc de Daniel Schneiderman. Le livre de Camille Lefebvre y était cité. Il y avait beaucoup de remarques très pertinentes de Camille Lefebvre qui était à l'intérieur de 5 têtes coupées, donc dans le livre de Daniel Schneiderman. Du coup, j'ai lu ce livre et j'ai appris des tas de choses. Et donc, je pense que je vais faire un Twitch sur ce livre dans les jours, mois qui viennent. J'ai essayé d'inviter Camille Lefebvre. Pour l'instant, elle ne m'a pas encore répondu. Je sais que sur le principe, elle était OK, mais pour l'instant, elle n'a pas encore répondu à mes derniers mails. Donc, j'attends d'avoir son feu vert. Mais en tout cas, voilà, ce sera un livre qui fera sans doute l'objet d'un Twitch. Salut Damask, ça va la pêche, la patate, la banane. On était en train de parler de mes actus très rapidement. Voilà, je parlais du livre de Camille Lefebvre que j'ai découvert grâce à 5 têtes coupées de Daniel Schneiderman et dont je compte faire une petite revue critique, éventuellement avec son autrice si elle accepte mon invitation. Sinon, bah écoute, je ferai cette revue de lecture tout seul, comme un grand, hein. J'ai écouté le replay, le live sur 5 têtes coupées, c'était vraiment chouette. Merci beaucoup, fille de prof, ça me fait très plaisir que tu aies écouté ce live et que tu aies trouvé ça sympatoche. Moi, j'ai beaucoup aimé lire ce livre, travailler sur ce livre, c'était vraiment super intéressant. Et puis, comme vous le savez, hein, je suis un grand fan de Daniel Schneiderman, donc j'adore découvrir ses nouveautés. Là, j'ai vu que récemment, il avait sorti un entretien, quand il avait participé à un entretien sur Elucide, une chaîne YouTube. Donc, j'irai sans doute voir cet entretien très bientôt. Voilà. Donc ça, Camille Lefebvre, au pays des pays au crépuscule, c'est un super bouquin et je vous le présenterai tout bientôt. Voilà, c'était les actus que je voulais vous présenter. Si vous avez des questions à poser ou quoi, c'est le ou quoi ou okay, qu'est-ce si vous avez des questions à poser, c'est le moment de le faire. Si vous avez des questions sur la cellule, etc. J'avais prévu de parler pendant 1 heure de mes actus à peu près. On a encore un petit peu de temps. Donc si vous voulez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je les prendrai tout de suite. Et donc aujourd'hui, on va à part ça. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la lecture du Tractatus de Ludwig Wittgenstein. Donc c'était, je vous avais dit que lors des lives précédents, enfin j'avais annoncé en fait que je parlerais régulièrement de Ludwig Wittgenstein dans ses émissions sur Twitch, parce que vraiment c'est un auteur qui pour moi est encore méconnu, je trouve, en fait, n'est pas encore très très bien même compris, pas très bien saisi, et qui pourtant pour moi est sans doute un des plus grands penseurs de l'histoire de l'humanité. Je pèse mes mots quand je dis ça. Je vais avec vous ce soir commencer la lecture suivie et commentée du Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein, et j'ai pour ambition que l'on lise ensemble l'intégralité de l'ouvrage et qu'on puisse en faire un commentaire complet en fait tous ensemble tout au long en fait de ces live Twitch. Donc voilà, donc quand je ne ferai pas en fait des lives sur le jeu de rôle, quand je n'aurai pas un invité comme par exemple Camille Lefebvre ou Pierre Lagrange sur ces lives, eh bien je vous parlerai de Ludwig Wittgenstein et je commencerai avec vous la lecture en fait du Tractatus. J'ai découvert la chanson Sans logique de Mylène Farmer. On dirait vraiment une chanson de Soren Solipsis si tu veux te taper une barre, Rome. Alors quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Mylène Farmer. Faut savoir que j'ai été un auditeur fidèle de Mylène Farmer. Ouais, eh oui, incroyable. Révélation dans ce Twitch, incroyable. Quand on est fan de Lady Oscar, les amis, dans les années 80, dans les années 90, assez rapidement, en fait, on devient fan de Mylène Farmer. Parce que de Libertine à Sans Contrefaçon et de toutes ces problématiques de genre, eh bien, on arrive assez rapidement, en fait, à s'intéresser, à travers, en fait, Lady Oscar, à s'intéresser, en fait, à Mylène Farmer. Et donc, j'ai été un auditeur fidèle de Mylène Farmer. Donc, il se trouve que je connais très, très bien la discographie de Mylène Farmer. De Laurent Boutonnat, j'ai même vu en fait le film de Laurent Boutonnat. Enfin, j'ai pas mal de choses sur Mylène Farmer. Je connais pas mal de choses sur Mylène Farmer. J'ai été un fou de Mylène Farmer, fut un temps incroyable, mais vrai. Voilà, donc peut-être, oui, j'irai écouter sans logique et j'y prendrai peut-être un certain plaisir. Peut-être pas une barre de rire finalement, tu vois. Je prends Mylène Farmer très au sérieux. Ah, donc j'ai trouvé un secret de sens. Oh my god, nous dit fille de prof. Fille de prof, peut-être bien que tu as découvert un secret. En tout cas, tu m'as fait parler de quelque chose dont je n'avais encore jamais parlé. Et ça, déjà, c'est un coup de maître. Et du coup, c'est l'escalade drogue après Mylène Farmer, drogue Wittgenstein et Schneiderman, nous dit Rosargue. Ça correspond assez bien à mon histoire, en tout cas. Non, mais voilà, quoi. Être un peu gothique dans les années 90-2000, être fan de Lady Oscar. Enfin, voilà, franchement, la plupart des gens qui ont suivi ce parcours ont été fans de Mylène Farmer, quoi. À un moment donné, ont porté des New Rock. Ah, vous savez pas ce que c'est que les New Rock? C'est des chaussures gothiques. Enfin, voilà. Bon, bref. Il y a des gens très bien, très très bien, qui sont fans de Mylène Farmer et qui se cachent, et qui se cachent, et qui sont pourtant aujourd'hui bien en vue, mais je ne les trahirai pas. Voilà. Allez, c'est parti, on va partir tout de suite avec vous, après ce moment, cet instant Mylène Farmer, incroyable, nous allons partir dans l'exploration du Tractatus de Ludwig Wittgenstein. Je vais le relire avec vous.
Voilà. C'était l'audio du live. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez partager cette session sur YouTube, nous rejoindre aussi tous les premiers mardis du mois en vous abonnant à ma chaîne ou à la cellule. Tenez-vous aussi informé des lives en me suivant sur les réseaux sociaux, sur Mastodon ou sur X par exemple, ou bien tout simplement en suivant le forum romaricbriand.fr. À très bientôt.